Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, Le Monde Aujourd'hui, édition du vendredi 29 janvier 2021. Bonjour, bienvenue. Les experts de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, chargés d'enquêter sur les origines de la pandémie de COVID-19, ont commencé aujourd'hui à rencontrer les scientifiques chinois et devraient se rendre dans les laboratoires et hôpitaux de Wuhan, berceau présumé du coronavirus dans le centre de la Chine. Alors qu'ils doivent rester encore 2 semaines dans le pays, les experts envisagent déjà de se rendre ce vendredi sur un marché de la ville considéré comme le premier foyer de contamination, a indiqué l'OMS. La mission de l'OMS se déroule dans un contexte délicat entre retard des autorisations accordées par Pékin pour la venue des experts, interrogation sur la capacité de ceux-ci à disposer d'un accès sans restriction et critiques des États-Unis qui ont accusé la Chine d'avoir dissimulé l'ampleur initiale de la crise sanitaire. Les premières doses du vaccin russe Sputnik V sont attendues aujourd'hui en Algérie et la campagne de vaccination contre le coronavirus devrait débuter dès le lendemain à Blida, le premier épicentre de la pandémie en mars dernier, selon APS qui cite des sources officielles, en ajoutant que cette opération concernera d'abord le personnel médical, les personnes âgées et les personnes malades chroniques. Fin décembre, Alger avait annoncé avoir commandé chez son allié russe 500 000 doses de vaccins. Le roi Mohamed VI a été vacciné jeudi contre le coronavirus, donnant ainsi le coup d'envoi à la campagne nationale de vaccination au Maroc, a annoncé un communiqué du Palais Royal. La campagne de vaccination se déroulera de façon progressive et par tranches et bénéficiera à l'ensemble des citoyens marocains et résidents de 17 ans et plus, soit environ 25 millions de personnes, indique jeudi le communiqué officiel. La campagne sera gratuite pour l'ensemble des citoyens, affirme le gouvernement marocain. Et toujours au Maroc, l'historien et défenseur des droits humains Marty Mounjib a été condamné à 1 an de prison ferme pour fraude et atteinte à la sécurité de l'État. Le concerné n'a pas été prévenu de l'audience en question, d'après son avocat. De hauts responsables du commandement militaire américain pour l'Afrique, AFRICOM, ont soutenu jeudi le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, dans ses tentatives de réforme de l'armée et de lutte contre la corruption. Nous cherchons à construire un nouvel avenir avec une nouvelle génération de chefs militaires en RDC, a déclaré l'adjoint du commandant pour l'engagement civilo-militaire de l'AFRICOM, Andrew Yang, après une rencontre avec le président du plus grand pays d'Afrique subsaharienne. En visite à Kinshasa du 27 au 29 janvier, la délégation américaine a salué l'engagement du président Tshisekedi pour professionnaliser le programme de réforme de l'armée congolaise et dans la lutte contre la corruption. La justice gambienne a décidé mercredi que Yankuba Touré, ministre de l'ex-président Yahya Jammeh, n'était protégé par aucune immunité. L'ancien dignitaire du régime Jammeh a été arrêté le 26 juin 2019 pour avoir refusé de répondre aux questions de la commission Vérité sur son implication présumée dans l'assassinat du ministre des Finances en juin 1995 et de celui de soldats lors d'une tentative de coup d'État manqué en novembre 1994. Cette décision ouvre la voie à un procès devant la haute cour de justice de Yankuba Touré, qui encourt la prison à perpétuité ou la peine de mort. Elle devrait également faire jurisprudence si Yahya Jammeh devait un jour comparaître devant un tribunal. Des hommes armés ont enlevé jeudi au moins 30 personnes au Nigeria et en ont tué une dizaine d'autres dans une série d'attaques dans le nord-ouest du pays, sous pression après des mois de grave détérioration de la situation sécuritaire. Le président Muhammadu Buhari a annoncé mardi, à la surprise générale, le remplacement des 4 principaux chefs de l'armée du pays le plus peuplé d'Afrique. Le Nigeria est notamment aux prises avec une rébellion djihadiste sanglante depuis plus de 10 ans dans le nord-est, ainsi qu'avec des groupes criminels organisés dans le nord-ouest et dans le sud pétrolifère. VOA Afrique Info, en ligne de mire dans ce journal, les États-Unis réclament le retrait immédiat des forces russes et turques de Libye. Guinée, l'opposant Oumar Sylla, condamné à 11 mois de prison. Au Burundi, le président Ndayishimiye appelle à régler les différends avec les médias. Jean-Roger Billon à ce micro. Nous sommes le vendredi 29 janvier 2021. On revient dans un instant, nous émettons de Washington. La suite de nos informations en ce vendredi 29 janvier 2021. Crise libyenne, les États-Unis ont demandé à la Turquie et à la Russie de commencer le retrait de leurs forces de Libye dans une déclaration ferme de la nouvelle administration américaine. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Conformément à l'accord du cessez-le-feu d'octobre, nous demandons à la Turquie et à la Russie d'entamer immédiatement le retrait de leurs forces du pays et le retrait des mercenaires étrangers et des substituts militaires qu'ils ont recrutés, financés, déployés et soutenus en Libye, a déclaré Richard Mills, ambassadeur américain par intérim à l'ONU. En décembre, les Nations Unies ont estimé à environ 20 000 les mercenaires et militaires étrangers déployés auprès des deux camps libyens. L'ONU dit avoir recensé 10 bases militaires occupées par des forces étrangères. Selon l'accord du cessez-le-feu conclu entre les belligérants le 23 octobre, les troupes étrangères et mercenaires devaient quitter la Libye dans les 3 mois. L'échéance, le 23 janvier, est passée sans aucun signe de retrait. Le maréchal Haftar est soutenu par les Émirats arabes unis, l'Égypte et la Russie, alors que le gouvernement d'union nationale est appuyé par la Turquie et des rebelles syriens, selon l'ONU. La Russie a toujours démenti avoir joué un rôle dans la présence de mercenaires russes en Libye.
En Guinée, l'opposant Omar Sylla a été condamné à 11 mois de prison ferme hier, au lendemain d'un appel du chef de la diplomatie française à faire toute la lumière sur les opposants emprisonnés. Nathalie Barge.
Omar Sylla avait été arrêté le 29 septembre alors qu'il parcourait la banlieue de Conakry pour inciter à participer à une manifestation contre la candidature du président Condé à un troisième mandat. Ce cadre du Front national pour la défense de la Constitution est depuis lors détenu et il a observé 2 semaines de grève de la faim. Initialement poursuivi pour participation délictueuse à un attroupement, des faits requalifiés en incitation directe à un attroupement armé, il a écopé de 11 mois ferme. Après la sentence, M. Sylla a été embarqué dans un fourgon sous les huées de ses partisans. Le FNDC a dénoncé la décision qu'il qualifie de politico-juridique. 2 opposants sont morts pendant leur détention. Les autorités avancent la thèse de mort naturelle. Mercredi, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, avait déclaré devant le Sénat que la France et l'Union européenne avaient demandé aux autorités guinéennes de faire toute la lumière sur l'incarcération des opposants, avec éventuellement des mesures à prendre si rien n'était fait en ce sens.
Le président burundais Evariste Ndayishimiye a appelé jeudi le régulateur national des médias à régler ses différends avec les organes de presse qu'il a sanctionnés après la crise liée aux élections de 2015. Les détails avec John Lydon.
Nous devons régler les différends que nous avons eus dans le passé avec les médias, a affirmé Evariste Ndayishimiye dans une adresse à l'intention des responsables des médias burundais publics et privés, ainsi que des porte-parole des institutions publiques. Que ces médias et le Conseil national de la communication s'asseyent autour de la même table et qu'ils décident d'œuvrer tous ensemble pour le développement du pays, a-t-il poursuivi. Plusieurs radios privées ont été violemment fermées par les forces de l'ordre en 2015. Les émissions en Kirundi, de la Voix de l'Amérique ou encore de la BBC ont aussi été suspendues. Des dizaines de journalistes burundais ont fui en exil, notamment au Rwanda, d'où ils continuent d'émettre des journaux sur les réseaux sociaux. Le Burundi occupe la 160e place sur 180 du classement 2020 de la liberté de la presse établie par Reporters sans frontières.
C'est maintenant l'heure de la Minute Éco, présentée par Nanit Talani.
Au Niger, le groupe français Orano mettra un terme à ses activités sur le site d'uranium Cominac en mars. Ce site est déficitaire depuis 2017, alors que les charges d'exploitation sont en hausse et le prix du minerai est en chute. Le site Somaïr d'Orano arrive aussi à épuisement. L'uranium représente 60% des recettes d'exportation du Niger et environ 456 millions d'euros de recettes annuelles. Sa baisse pourrait donc durement affaiblir l'économie du Niger. Le ministère algérien des mines indique que les discussions avec des entreprises chinoises pour l'exploitation du gisement de fer de Garadé-Villette sont au stade de finalisation. Ces gisements ont des réserves estimées à 3,5 milliards de tonnes. Le projet donnera naissance à une structure qui doit produire annuellement 12 millions de tonnes et générer plus de 3 000 emplois. Pour terminer, la RDC a réuni l'essentiel des conditions imposées par le FMI pour obtenir son appui, a révélé le gouverneur de la Banque centrale, Déocratias Mutombo, dans un entretien accordé à la Tribune Afrique. Kinshasa a déjà publié les nouveaux contrats miniers et soumis au Parlement la loi de finances 2021 avec un budget de 7 milliards de dollars contre 6,9 milliards de dollars estimés par le FMI. Ce dernier a conditionné l'octroi à la RDC d'un programme formel triennal par la stabilité macroéconomique, la transparence minière, la gestion de la dette extérieure et la restructuration de la Banque centrale.
À présent, la page de sport avec Yacouba Ouedraogo.
Bonjour à tous, c'est demain que commencent les matchs des quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations, CHAN. Les deux premières rencontres mettront aux prises le Congo et le Mali, puis la République démocratique du Congo défiera le pays hôte, le Cameroun, dans le derby de l'Afrique centrale. Justement, la RDC est partagée entre satisfaction, incertitude, voire inquiétude sur l'effectif des Léopards avant leur match, malgré le retour dans le groupe du sélectionneur Florent Ibengué et trois joueurs contrôlés négatifs au Covid-19. Ces derniers ont pris part à la séance d'entraînement du mercredi au terrain annexe du stade de Japoma à Douala. Sur place, la correspondance de Valdo Simo Yamba.
Trois joueurs, dont deux gardiens de but et le sélectionneur principal de la RDC négatif à la Covid-19, ont rejoint les restes du groupe, ce qui n'est pas du tout motif de satisfaction pour le sélectionneur Florent Ibengué.
Je ne suis pas totalement content, vous le voyez bien. J'aurais préféré, moi, rester et puis qu'un joueur se libère encore pour l'équipe. Bon, ça ne s'est pas fait. Il y a un nouveau test dans deux jours.
Un test qui pourrait libérer les uns et envoyer les autres joueurs en quarantaine, d'où l'incertitude reste de mise, explique les sélectionneurs de la RDC.
On a trois joueurs qui sont sortis ici, mais bien malin qui peut me dire quel groupe j'aurai contre le Cameroun. On ne sait pas si d'autres encore vont être pris.
Près d'une semaine passée en quarantaine, les sélectionneurs de la RDC est pourtant resté actif avec l'ensemble du groupe.
Le matin, du sport, discussion avec le staff, avec les joueurs, avec les téléphones. Hein. Et après, un visionnage des matchs pour pouvoir anticiper et puis préparation des entraînements avec le groupe.
La RDC est l'un des pays les plus touchés par la Covid-19 dans ce CHAN 2020, puisque 12 autres cas demeurent encore en quarantaine. Joueurs et membres du staff technique, y compris Douala, Valdo Simo Yamba, VOA Afrique.
Dimanche, la Guinée fera face au Rwanda et la Zambie rencontrera le Maroc. Ici, aux États-Unis, la star japonaise du tennis et activiste Naomi Osaka, lauréate de trois tournois du Grand Chelem, est devenue copropriétaire du North Carolina Courage, a annoncé le club évoluant dans la Ligue américaine de football féminin. « Mon investissement va au-delà du simple fait d'être propriétaire d'une équipe. C'est un investissement auprès de femmes extraordinaires qui sont des modèles et des leaders dans leur domaine et qui sont une source d'inspiration pour toutes les jeunes sportives », a commenté la star de 23 ans qui a remporté l'US Open en 2020, la deuxième fois de sa carrière après 2018, son troisième majeur en incluant l'Open d'Australie de 2019.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Jean-Roger Dion toujours en votre compagnie. À présent, nos dossiers du jour. Les Congolais sont appelés aux urnes le 21 mars prochain pour élire leur nouveau président parmi plusieurs candidats, dont le chef de l'État sortant, Denis Sassou Nguesso, 76 ans, dont 35 au pouvoir. L'opposition part en rang dispersé comme d'habitude. Pourquoi une telle division? Nani Talani a joint ici à Washington Hervé Telama Miabe, coordonnateur du National Congress for Democracy et membre du Congrès pour la Renaissance du Congo.
Bon, l'opposition, je ne sais pas qui vous appelez l'opposition. Est-ce que ceux qui sont à Brazzaville, des opposants, bon, je ne peux pas réellement vous répondre, mais je vous dis simplement que pour moi, quand l'élection déjà elle-même n'est pas une élection légitime, je me demande même pourquoi les gens vont se présenter. Parce que ceux qui veulent se présenter aujourd'hui à cette élection, je pense que certains d'entre eux se sont présentés en 2016. Alors, nous savons ce qui s'est passé en 2016. Pourquoi se mettre encore à une élection quand on sait ce qui va se passer en 2021? Donc, je veux dire que aller à une élection présidentielle aujourd'hui, participer à cette élection, c'est simplement renforcer le pouvoir de M. Sassou Nguesso ou d'essayer de le légitimiser d'une certaine façon. Parce que quels que soient les résultats, quelle que soit la personne qui gagne, le gagnant sera toujours proclamé M. Sassou Nguesso. Donc, pourquoi aller à une élection quand vous savez qu'il est déjà le gagnant dans cette élection? Vous voyez, donc pour moi, c'est un peu ça la contradiction profonde que l'on peut dire d'une opposition qui va à une élection présidentielle, qui sait déjà qu'au bout du compte, au résultat, c'est M. Sassou Nguesso qui va gagner. Donc je pense que c'est une perte de temps et je pense que c'est simplement pour renforcer le régime de M. Sassou Nguesso, pour moi, je dirais ça.
Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'une candidature unique de l'opposition pourrait faire la différence malgré la présence de M. Sassou?
Absolument pas, parce que même s'il y avait une candidature unique de l'opposition, M. Sassou Nguesso va toujours se proclamer président de la République, même s'il perd les élections. Vous savez, d'après les données que nous avons et que tout le monde connaît, même la France, je pense qu'ils sont au courant de ces données, M. Sassou Nguesso a eu 8%, M. 8% à l'élection présidentielle en 2016. Qui est président de la République? M. Sassou Nguesso aujourd'hui. Alors pourquoi en 2021, ça va être différent? Donc, quelle que soit l'organisation de l'opposition, qu'elle aille en rang dispersé ou bien qu'elle aille avec un candidat, le résultat est le même. C'est-à-dire qu'au bout du compte, le résultat qui sera prononcé, c'est la victoire de M. Sassou Nguesso. Nous le savons déjà. Arrêtons de prendre les Congolais pour des idiots ou des imbéciles. Nous savons exactement ce qui va se passer. Alors pourquoi aller à des élections qui sont déjà truquées, qui ne sont pas légitimes? Ça ne sert à rien. Moi, je dis que ceux qui vont à l'élection présidentielle au Congo aujourd'hui, ce sont des gens qui sont là en train de renforcer et le pouvoir de M. Sassou Nguesso.
La date de la présidentielle est déjà fixée et souvent, à chaque élection, il y a eu des violences dans la région du Poul. Qu'est-ce qu'on peut faire?
D'ailleurs, je dois vous informer que M. Sassou Nguesso a déjà commencé. Il y a deux jours, il y a eu des tirs dans le Poul. D'après les informations que nous avons reçues, ce sont encore des provocations des éléments du gouvernement, donc des militaires qui sont venus et qui ont commencé à tirer dans un village, dans le Poul. À chaque fois, c'est la même stratégie. On va bombarder dans le Poul, on cherche des raisons pour tuer les gens du Poul, et donc pour créer une confusion, pour créer un chaos. Et puis, je ne sais pas si la stratégie, c'est de dire après que bon, il y a des problèmes dans le Poul, je ne sais pas. Pourquoi l'acharnement sur la population du Poul? Il y a eu des audios que nous avons reçus où des gens qui ont expérimenté justement ces tirs, ces attaques, qui nous ont envoyé des audios pour dire que pour une raison, pour quelqu'un qu'on ne connaît pas, les gens sont venus tirer sur nous ici. M. Sassou Nguesso a toujours fait ça et ne serions pas surpris que d'ici là, il va y avoir encore des tirs et des bombardements dans le Poul. Et je pense que la communauté internationale et la communauté africaine congolaise doit être informée que c'est ça la stratégie de M. Sassou Nguesso et nous devons nous opposer, devons déclarer ce qui est en train de se faire contre le Poul. Tout ce que je peux vous dire pour terminer, c'est que moi je pense fondamentalement que la santé d'un pays dépend de la qualité du leadership que nous avons dans ce pays. François Rabelais, ce philosophe qui disait que science sans conscience n'est qu'en ruine de l'âme. Et je dirais que gouverner sans conscience ruine l'État. Et effectivement, l'État congolais est ruiné parce que nous avons devant nous des hommes et des femmes, en commençant par M. Sassou Nguesso lui-même, qui dirige le Congo dans un état de conscience primitif. Les décisions qui sont prises aujourd'hui, nous en souffrirons encore pour les 50, les 100 prochaines années qui arrivent. Donc c'est pour ça que le peuple congolais ne doit pas laisser M. Sassou Nguesso se représenter encore une fois. Nous nous disons toujours qu'il faut que le peuple congolais prenne sa décision et sa destinée en main. Et comment elle doit le faire? Elle doit sortir pour prendre son indépendance.
Hervé Telama Niabe, enseignant à l'université du district de Columbia à Washington aux États-Unis, interrogé par Nani Talani.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari vient de renvoyer les plus hauts gradés de l'armée. Le chef de l'État nigérian souhaite une réponse plus robuste à la rébellion djihadiste sanglante qui sévit depuis plus de 10 ans dans le nord-est et aux groupes criminels organisés dans le nord-ouest et dans le sud pétrolifère. Les nouveaux patrons de l'armée feront donc face à de nombreux défis. Les avis des Nigérians sur la nomination de ces nouveaux chefs militaires. Le reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
La décision du président nigérien Muhammadu Buhari de limoger ses chefs militaires a été une surprise pour beaucoup. Auparavant, il y a eu plusieurs appels pour leur destitution qui sont restés sans effet. Les chefs militaires sortants ont servi pendant environ 5 ans, ce qui faisait de leur mandat le plus long depuis le retour du Nigeria à la démocratie en 1999. Kabiru Adamu est expert en sécurité.
Tous ces gens étaient aux affaires et ils ont dirigé différentes sections des opérations de l'armée. Donc, je ne suis pas très optimiste qu'il y aurait des changements significatifs. Et pour être clair avec les chefs militaires sortants, ils ont beaucoup travaillé, en particulier le chef d'état-major de l'armée de l'air. Il a effectué beaucoup de changements, notamment dans le domaine de la recherche et du développement. Il a fait un travail remarquable.
Les anciens chefs de la sécurité ont fait l'objet de nombreuses critiques à cause de la montée spectaculaire du grand banditisme et des enlèvements contre rançon. Solomon Ezo est un ancien officier de la marine nationale à la retraite. Il estime que la nomination d'Awal Zubeiru Gambo à la tête de la marine pourrait apporter des changements.
L'amiral Ezi Gambo, c'est quelqu'un avec lequel j'ai travaillé intensément. C'est quelqu'un qui a le souci pour le reste des officiers. En plus, il est aussi un jeune officier intelligent. Nous le connaissons dans le service comme un officier qui ne fait pas des bêtises. Son arrivée va particulièrement injecter un nouveau sang au sein de la marine.
Pour certains, la nomination de ces nouveaux chefs militaires est tardive après des mois de pression et ils devront faire beaucoup plus.
Les nouveaux chefs militaires doivent être plus actifs que les anciens parce qu'ils n'ont rien fait. Les attentats dans le nord se multiplient et les gens se plaignent.
Pour moi, ils arrivent en retard. Il y a d'autres officiers supérieurs qui étaient prêts à remplacer ces gens. Mais ils n'ont pas reçu l'opportunité parce que ces gens ont trop duré avant de les remplacer.
D'autres estiment que changer les chefs militaires ne garantit pas pour autant la sécurité dans le pays.
Faire venir de nouveaux chefs militaires ne va toujours pas donner ce que nous voulons. C'est un problème d'individus avec lesquels ils travaillent. Cela nous amène jusqu'au dernier soldat. Si le bien-être du dernier soldat n'est pas pris en compte, il ne va pas produire des résultats satisfaisants. Ils peuvent changer, mais c'est toute la structure militaire qui doit être revue.
En 2015, les militants du groupe Boko Haram contrôlaient des vastes étendues du territoire et les attentats suicides étaient fréquents. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais les insurgés continuent de mener des attaques contre des cibles militaires et civiles, principalement dans des embuscades. En décembre, plus de 300 élèves ont été enlevés d'une école du Nord avant d'être libérés après des négociations avec les ravisseurs. Les analystes disent que des efforts doivent être fournis à l'armée nigériane pour l'équipement et les financements appropriés et surtout veiller au bien-être des troupes pour atteindre les objectifs en matière de sécurité. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Au Sénégal, la seconde vague de COVID-19 et les mesures restrictives qui l'accompagnent ont plongé une frange de la population dans une conjoncture financière intenable. Des pères de famille qui ont perdu leurs revenus et des jeunes débrouillards dans la misère témoignent. Retrouvons à Dakar, Seydina Abagay.
Tout est à l'arrêt et nous sommes obligés de payer le loyer dont le coût est exorbitant. Nous habitons la banlieue où règne la pauvreté et la précarité. C'est vraiment dur.
Ibou n'est pas le seul à tirer le diable par la queue en ce moment. Bon nombre de Sénégalais à faible revenu souffrent de la conjoncture. Une conjoncture accentuée par la pandémie de COVID-19. Anta est coiffeuse à domicile. Comme les clientes sont très rares, elle avoue qu'elle reste parfois sans avoir de quoi manger.
étrangers.
Le maître mot en ce moment pour qualifier le contexte socio-économique au Sénégal, c'est la conjoncture. Je ne travaille plus depuis un bon moment. Je suis coiffeuse, j'habille et mariée, mais avec les mesures restrictives, plus de cérémonies, donc plus d'activités pour moi. Tenez-vous bien, ma grande sœur a son étalage devant la maison. En ce moment, son activité est aux arrêts. Il nous arrive même de rester des jours sans avoir de quoi manger. C'est très dur et pénible.
Sous le couvert de l'anonymat, ce père de famille est boucher, comme il avait contracté le virus. Après sa guérison, il a perdu plus de la moitié de ses clients.
Si j'avais contracté le virus, ma famille mise en quarantaine. Aujourd'hui, je suis guéri, mais j'ai perdu beaucoup de clients. Les gens ont peur d'acheter de la viande chez moi. Une situation plus que difficile pour ma famille. Je suis resté plus de 2 mois sans travailler, mais heureusement, je me suis agrippé à ma foi en Dieu. Des gens sont dans la même situation que moi. Ils survivent. Le pays va mal en ce moment. Voilà pourquoi les gens prennent la pirogue.
Ce père de famille reconnaît que depuis un moment, le mode survie est activé. Chez lui, on ne mange plus en quantité. Contexte actuel oblige.
Un être humain a besoin de satisfaire ses besoins primaires. Manger, bien manger, boire avec un esprit et être épanoui. Aujourd'hui, même bien manger est un parcours du combattant. J'en étais à un point où je voulais quitter le pays. Avoir le virus, ne pas avoir les moyens de bien s'occuper de sa famille. Tu perds ton boulot, tu essaies de te reconstruire. On te met la pression. C'est vraiment dur. Il y a une disparité sociale. Nous qui sommes au bas de l'échelle, on souffre. Les autorités et les personnes nantis doivent nous aider. La situation est plus que intenable. Je m'attends à tout en ce moment.
Moi, j'attends tout. Le climat socio-économique du Sénégal est plus que délétère et il est actuellement aggravé par la pandémie. Les gagne-peu et les démunis sont les plus vulnérables. Mal logés, ils bravent le froid et luttent pour ne pas contracter le virus. Idem pour manger assez ou correctement. C'est Dina Abagué à Dakar pour VOA.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Au cours de sa première semaine au pouvoir, le président américain Joe Biden a pris le contre-pied de plusieurs politiques de l'administration Trump dans la lutte contre la pandémie du COVID-19, ainsi que des mesures sur l'économie, l'immigration et le changement climatique. Michel Quinn de la VOA a fait le point sur ces nouvelles actions dans un pays profondément divisé. Le récit est de John Lydon.
Le président Joe Biden a prêté serment le 20 janvier avec un message pour unifier une nation divisée.
With unity.
Avec l'unité, nous pouvons faire de grandes choses. Nous pouvons corriger les torts, nous pouvons mettre les gens au travail et dans de bons emplois.
Au cours de sa première semaine, Biden a signé plusieurs décrets annulant ceux de son prédécesseur sur la politique énergétique, la politique étrangère, l'immigration et d'autres domaines. Réaction critique du sénateur républicain Marco Rubio.
We now have a president who talks like a centrist.
Nous avons un président qui parle comme un centriste, mais qui gouverne de l'extrême gauche et nous ne pouvons pas rester assis pendant une période de lune de miel et regarder ces choses se produire.
Mais l'administration Biden veut une rupture avec celle de Trump. Julia Azari est professeure à l'université Marquette.
It's a signal of really moving in a different direction than the...
C'est un signal fort pour aller dans une direction différente et cela ne se fera pas sans un certain niveau de division. Mais aussi, certains sondages suggèrent que bon nombre de ces politiques sont assez populaires.
Par exemple, le décret de Biden permettant aux personnes transgenres de servir de nouveau dans l'armée. 70% des Américains l'ont soutenu dans un sondage Gallup en 2019. Son appel à l'unité reflète l'approche adoptée par l'ancien président Barack Obama, qui avait pris fonction pendant une crise financière. Joe Biden fait face à une crise différente, la pandémie de COVID-19 et une économie ravagée. Si l'histoire nous éclaire, Biden a donc un chemin difficile à parcourir. Nicolas Beauchamp, professeur des sciences politiques à la Northeastern University.
Avec Obama, je ne pense pas que le message a nécessairement fonctionné très bien en termes de rapprochement de la droite et de la gauche. Et je ne pense pas que cela fonctionne très bien non plus en ce moment. C'est le mieux qu'une situation difficile en termes d'unification d'une nation fortement divisée.
Joe Biden révoque ce jeudi la règle interdisant à l'État américain de financer des ONG étrangères offrant des services d'avortement. L'avortement est légal aux États-Unis, mais divise encore fortement les Américains. Les républicains accusent Biden de chercher à annuler l'héritage de son prédécesseur. Les démocrates, on s'en souvient, avaient accusé Trump de la même chose il y a 4 ans.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Présentation Jean-Roger Billon, mise en onde Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Excellente journée à tous.